Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brand, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Julien Calvas.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Après avoir infiltré cette semaine le monde de l'entreprise, c'est une compagnie historique hantée par la menace de la privatisation qui nous intéresse aujourd'hui, la SNCF. Plus d'un an après l'adoption de la réforme ferroviaire au Parlement, l'entreprise créée en 1937 prépare l'avenir. Dans moins de 4 mois, le 1er janvier 2020, le transport intérieur de voyageurs s'ouvrira à la concurrence et les nouveaux salariés ne pourront plus bénéficier du statut de cheminot. Alors la libéralisation du rail pourrait-elle donner un nouveau souffle au transport ferroviaire français ? Les salariés seront-ils les grands perdants de la réforme ? Et plus largement, comment mener à bien l'ouverture à la concurrence d'un monopole public ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Jérôme Maucourant nous emmènera à la découverte de la grande transformation de l'historien de l'économie Karl Polanyi. Pour parler de l'avenir de la SNCF, trois invités autour de la table. Bonjour Éric Meyer.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire fédéral de Sudrail, l'un des quatre syndicats représentatifs de la SNCF. À vos côtés, Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe. Et enfin, Gilles Dansard, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du site Mobilettre et l'un des meilleurs spécialistes du ferroviaire. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
On a eu cet été 26 millions de Français qui ont utilisé le train pour partir ou revenir en vacances, c'est plus 7%, et c'est au-delà de ce qu'on imaginait. Tous les trains. Les TER, avec les voyageurs, avec leurs bagages, leurs vacances, etc., les TER ont progressé de plus 5%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux choses. D'abord, les Français ont massivement choisi de partir en France, en région, cet été. Il a fait beau, il y avait eu les épisodes du début de l'année, les gens avaient envie de tranquillité. Et puis la deuxième chose, c'est que je crois que les gens font de plus en plus attention à leurs décisions quotidiennes par rapport à la planète. Utiliser sa voiture individuelle pour un trajet de 200, 500 kilomètres, c'est 30 fois plus de CO2 que d'utiliser le train. Et les gens sont cohérents. Ils réclament plus d'écologie de la part des hommes et des femmes politiques, mais ils se disent, si moi, personnellement, individuellement, je fais rien, eh ben, je suis en contradiction. Donc, on observe vraiment un engouement pour le train et on gagne des parts de marché.
On entendait le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se féliciter des bons chiffres de l'été et vanter la conscience écologique des Français. Or, les enjeux environnementaux ont été assez absents des débats autour du pacte ferroviaire, cette vaste réforme de la SNCF qui a été votée par le Parlement il y a un peu plus d'un an, Gilles Dansard.
Oui, on a là tous les éléments du décalage, voire du paradoxe. C'est-à-dire qu'on sent bien que les Français veulent des trains, veulent du transport collectif, utiliser moins leur voiture. On voit aussi que les entreprises, pour les marchandises, ont envie de diversifier leur mode de transport, de ne plus tout miser sur le camion. Et en même temps, les crédits ne sont pas là. Le gouvernement dit plutôt à la SNCF, faites de la productivité, et puis après on verra si on remet de l'argent. La question de la dette a un peu abusé tout le monde. Certes, on a repris de la dette, mais c'est pas la reprise de la dette qui va miraculeusement permettre à Guillaume Pépi ou à son successeur et à l'ensemble des cheminots de redynamiser le transport ferroviaire tel que les Français l'attendent.
On peut se demander si l'ouverture à la concurrence n'est pas ce qui permettrait justement à la part du ferroviaire au sein de l'ensemble des modes de transport de réaugmenter. On sait qu'elle a recommencé à décliner à partir de 2011, Jean-Marc Daniel.
Oui, elle a commencé à décliner. Je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à l'histoire de l'ouverture à la concurrence, il y a trois éléments à mettre en regard. Le premier élément, c'est d'abord que en tant que transport écologique et tout ça, le transport ferroviaire n'est pas exclusivement alimenté en électricité. Il y a même beaucoup de lignes qui sont alimentées en diesel, en pétrole, enfin je ne sais pas précisément quel est le type de carburant qu'on utilise, mais ce n'est pas de l'électricité. La deuxième remarque que je ferais, c'est que là aussi, les Français redécouvrent découvre la SNCF, mais l'essentiel des gens qui utilisent le train, c'est des banlieusards. C'est-à-dire l'essentiel du trafic se fait, alors pas en distance, parce que c'est des distances assez courtes, mais se fait à Paris et accessoirement dans quelques grandes métropoles comme Lyon. Et donc là, il y a aussi, les Français sont aussi portés vers ça par la situation générale du fonctionnement de l'automobile et des embouteillages qui se généralisent dans ces éléments. Le troisième élément pour rebondir sur l'histoire de la dette, là où je suis assez d'accord, c'est qu'on a beaucoup parlé de la dette. Et la dette, c'est un peu, je dirais, une astuce. Et enfin, grosso modo, c'est pas rentable les chemins de fer. Hein. Ce que ramasse la SNCF sous forme de billets, ça paie à peine la masse salariale.
Il faut expliquer que l'État a décidé d'éponger une bonne partie de la dette de la SNCF Réseau, qui s'occupe des infrastructures.
Soit subventionner, mettre une subvention qui permet d'équilibrer année par année les comptes de la SNCF, soit mettre une subvention qui n'est pas assez importante. À ce moment-là, ça génère de la dette. Et puis, au bout d'un moment, il reprend la dette. Mais personne n'est dupe. Si vous regardez la notation que font les agences de notation de la dette de la SNCF, c'est quand même une entreprise qui ne gagne pas d'argent quand on regarde purement ses recettes et qui n'a pas de fonds propres si on regarde sur le plan strictement comptable. Eh bien, cette entreprise, elle a la note double A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agences de notation considèrent que la dette de la SNCF, c'est pas une dette de la SNCF, c'est une dette de l'État déguisée. Et donc, je crois que on a beaucoup parlé de la dette et on a eu tort de pas se poser la question de l'avenir véritablement du transport ferroviaire.
Éric Meyer, sur les propos de Guillaume Pépi, aussi sur cette question peut-être de la dette.
Aujourd'hui, si on voit les voyageurs, notamment pendant l'été, qui prennent le train, c'est pas, malgré l'urgence écologique, hein, aujourd'hui, c'est aussi un élément du dossier à prendre en ligne de compte, c'est bien parce qu'aussi au niveau coût, je veux dire, ils s'y retrouvent. Les familles qui ont délaissé leur voiture pour prendre le train, ils ont fait leur compte. Ils ont fait leur péage, essence, parking, etc. Et donc au bout du bout, si c'est bien qu'il y a une compétitivité aussi en termes de coûts des transports de la SNCF. Après, sur l'ouverture à la concurrence qui serait la solution à tous les problèmes, le Premier ministre, quand il a mis en œuvre la loi ferroviaire, a dit l'ouverture à la concurrence, ça doit permettre d'augmenter la part du ferroviaire, d'augmenter les dessertes, etc. Aujourd'hui, sur ce point-là, on voit bien la mise en danger d'un ensemble de petites lignes dans les territoires, petites lignes qui notamment sont les veines, je veux dire les artères de ce qui reste du fret ferroviaire, parce que si on a un exemple d'ouverture à la concurrence dans le ferroviaire ou récent où ça a été une véritable catastrophe, je veux dire que ce soit pour socialement ou pour le kilomètre, pour le tonnage de marchandises transportées, c'est bien le fret ferroviaire.
Alors il faut expliquer, Gilles Dansart, peut-être les étapes de cette libéralisation, parce qu'en réalité, la concurrence existe depuis une dizaine d'années, effectivement, dans le fret et les liaisons internationales. Alors on peut se demander qu'est-ce que prévoit précisément cette réforme adoptée par le Parlement en juin 2018. Le transport de voyageurs va être ouvert à la concurrence, mais le capital, lui, va rester aux mains de l'État.
Oui, tout à fait. Le réseau va rester aux mains de l'État. L'histoire de la concurrence dans le chemin de fer, c'est assez compliqué en France parce que l'État a beaucoup retardé la mise en œuvre de la concurrence dans le fret ferroviaire et l'a fait in extremis en 2006, ce qui a effectivement causé un traumatisme et a contribué à amplifier la chute du transport de marchandises par le rail.
La SNCF a perdu 40% de parts de marché.
Tout à fait. Et là, on fait un peu différemment. On proclame qu'on fait une réforme parce que la concurrence doit être anticipée, travaillée, etc. Il n'est pas certain que cette concurrence n'ait pas été un argument de la réforme, d'une réforme assez technocratique et organisationnelle, et que finalement, il ne va pas se passer grand-chose, parce que la concurrence dans les TGV, il va falloir vraiment mettre beaucoup d'argent sur la table pour une compagnie pour venir rivaliser avec la SNCF. Il y a toutes sortes d'entraves qui sont aujourd'hui, qui existent pour l'arrivée de nouveaux, ce qu'on appelle les nouveaux entrants. Donc c'est un peu comme la dette, la concurrence. On n'est pas au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la capacité de l'entreprise SNCF, du groupe à 35 milliards d'euros, à retrouver de la performance, la cohésion des cheminots, la qualité de service. C'est ça l'enjeu. Et donc la dette, la concurrence, c'est quelque part encore un peu du paysage.
On va faire réagir Jean-Marc Daniel. Vous êtes d'accord avec cette vision de Gilles Dansart selon laquelle les entreprises concurrentes ne devraient finalement pas se presser au portillon?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il va y avoir plus de candidats qu'on ne le pense pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a une demande de concurrence, notamment sur le réseau TER. Les régions qui sont vis-à-vis de la SNCF sont assez impatientes de pouvoir mettre la SNCF en concurrence avec d'autres acteurs. Hervé Morin, qui est le président de la région Normandie et qui mène un peu ce combat, n'arrête pas de dire qu'il attend avec impatience le moment où il pourra dire à la SNCF, vous n'avez plus la situation de monopole que vous avez. Et même, et c'est transcourant, c'est-à-dire même ceux qui, les présidents de région qui sont issus du Parti Socialiste, n'hésitent pas à dire qu'ils attendent la concurrence avec une certaine impatience.
Et puis on a pu entendre parler de certains candidats, comme le français Transdev, l'italien Trenitalia.
Voilà. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a une forme de concurrence qui s'est installée. Notamment, on a dit que le train, les gens allaient vers le train, le TGV, c'est cher le TGV. Et on s'est aperçu cet été que parmi les modes de transport de long courrier qui ont fait le plus de progrès sur l'année par rapport à l'année précédente, il y a le bus, ce qu'on appelle les bus Macron. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire que la SNCF avait compris l'arrivée de cette forme de concurrence particulière qui est l'autoroute. C'est-à-dire que pendant très longtemps, elle a vécu avec une concurrence sur l'autoroute qui était organisée par l'autostop. Et puis ensuite, elle a eu le covoiturage en face d'elle, donc elle a milité pour avoir effectivement son entrée sur ce marché des autobus. Donc elle avait créé les Wicar, et donc elle vient de vendre sa filiale spécialisée dans les bus à Blablacar. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a quand même une pression extérieure sur la concurrence qui fait que la SNCF ne peut pas l'ignorer, qui est une pression, je dirais, technologique. Il y a des bus, il y a d'autres modes de transport, et une pression de la demande. Il y a de plus en plus de gens qui demandent que la SNCF soit en concurrence.
La question qu'on peut se poser, c'est si la SNCF réussira à être compétitive face à l'arrivée de ses concurrents. Une réaction, Éric Meyer, au propos de Jean-Marc Daniel.
Oui, on parle d'ouverture à la concurrence intramodale. La concurrence intermodale, on l'a déjà dans le fret ferroviaire avec le camion. Je veux dire, en termes de coûts, notamment de coûts d'exploitation, c'est difficilement comparable. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez le prix d'un billet TGV, quels sont les coûts incompressibles que pour l'ensemble des opérateurs dans un billet TGV? Il y a sur certaines portions de lignes jusqu'à 50% du prix du billet qui part en redevance, je veux dire, de d'infrastructure. Voire des fois plus. Derrière, les redevances de ce qu'on appelle les touchés de gare, quand vous rentrez dans une gare, etc., il faut encore repayer. Dans les TER que citait monsieur, il faut y rajouter l'allocation du matériel, parce que le matériel appartient aux régions, et même dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, l'allocation du matériel sera réalisée au même prix pour tous.
Ce que vous voulez dire, c'est que la SNCF est déjà compétitive avec les moyens dont elle dispose à l'heure actuelle.
Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence, si elle se fait, elle ne pourra pas se faire, je veux dire, sur le coût des infrastructures. Elle ne pourra pas se faire sur le coût du matériel, parce que ce sera des charges fixes sur lesquelles vous ne pourrez pas agir. Il ne pourra se faire que sur un seul élément, c'est la partie sociale. Donc au final, on va vers une perte de droits, vers un dumping social, je veux dire, pour l'ensemble des salariés qui touchent de près ou de loin au ferroviaire.
C'est sur le moins-disant social que les nouveaux concurrents qui arrivent pourront dégager des bénéfices, Gilles Dansart?
C'est sûr, c'est la marge qui leur permettra d'être compétitifs. Mais ce que je voulais juste dire, c'est que pour les régions qui veulent aller vers la concurrence, et elles ne le veulent pas toutes, il y en a certaines, Bretagne, Occitanie, qui refusent la concurrence pour les TER, pour celles qui le veulent, ce sera au maximum dans 5 à 10 ans, 5, 6, 7% du trafic. Donc, pour les Français, la concurrence, ça ne va pas être tout de suite plein de trains, plein d'opérateurs différents, etc. La concurrence est uniquement intéressante pour essayer de faire baisser les coûts. Et comment on fait baisser les coûts dans le chemin de fer? Eh bien, effectivement, soit il y a un réinvestissement de la puissance publique qui considère que pour des tas de raisons écologiques, de partage des communs, etc., il faut que la puissance publique subventionne davantage. Ou alors, effectivement, on baisse les coûts de salariaux, et à ce moment-là, c'est une autre politique. Donc là, il y a vraiment un choix, et il est assez clair de la part du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'objectif de la concurrence permettre de réduire les coûts, les coûts du travail à la SNCF.
Alors, ce que prévoit cette réforme ferroviaire, c'est que la SNCF, qui est à l'heure actuelle constituée de 3 EPIC, ces établissements publics à caractère industriel et commercial, la SNCF sera transformée en 5 sociétés privées. Quel est votre regard sur cette transformation, Jean-Marc Daniel ? Est-ce qu'on assiste à la progressive disparition de cette exception française qu'est l'EPIC ?
Je pense qu'il y a, derrière cette réforme, il y a deux idées. Il y a une première idée qui est d'essayer de ménager l'avenir. C'est-à-dire que, ménager l'avenir, entre guillemets, c'est-à-dire que malgré les déclarations, proclamations, engagements comme quoi on ne privatiserait pas la SNCF, qui était une demande, il y a quand même la préparation d'un cadre juridique qui permettrait de faire de la SNCF, d'abord l'opérateur historique comme l'a été, on est passé de la direction générale des télécoms à France Télécom, et puis à Orange. Et donc, bon, et puis la Poste, on est passé de la Poste de Louis XI à la Poste qui est un établissement public, et puis progressivement la Poste va devenir une entreprise privée.
Et de Grèce de France à Engie, on pourrait multiplier les exemples.
On pourrait multiplier, la SNCF n'y échappera pas, d'autant moins qu'on est dans des situations où les chemins de fer, d'abord, dans beaucoup de pays sont privés. Alors, tout le monde met en avant l'exemple du Royaume-Uni, sans d'ailleurs aller voir exactement ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais personne ne va voir ce qui se passe en Suède, personne ne va voir ce qui se passe au Japon, qui est un des premiers pays à avoir privatisé, qui est un pays qui est axé sur les chemins de fer. C'est un des pays où il y a le plus de transports, de kilomètres parcourus par la population.
Pour vous, la réussite de la libéralisation, c'est avant tout la baisse des prix pour les consommateurs ?
Et le résultat, c'est la baisse des prix pour le consommateur, avec effectivement, il n'y a pas de mystère, une baisse du coût salarial. Alors, cette baisse du coût salarial, elle peut prendre deux formes. Soit on garde pratiquement les mêmes effectifs et à ce moment-là, on paupérise chaque individu, ou bien on fait énormément de baisses d'effectifs. Alors, la SNCF, enfin les chemins de fer ont entrepris des baisses d'effectifs. Je regardais ça quand on a créé la SNCF, il y avait 515 000 cheminots. Quand on l'a créé en 1937-1938, 515 000 cheminots, ils sont 140 000. Donc la SNCF publique a fait des gains de productivité. Mmh. Mais si vous regardez les rapports, par exemple, la Cour des comptes, par exemple, a noté que depuis 5 ans, on baisse les effectifs de la SNCF, et pourtant la masse salariale continue à augmenter. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe qui est lié d'une part au vieillissement et qui est lié au fait que l'organisation de la SNCF a créé beaucoup une armée mexicaine, alors que les gens qui sont véritablement au centre du dispositif, sont plutôt moins nombreux.
Éric Meyer, sur cette crainte peut-être d'une casse sociale liée à cette ouverture à la concurrence.
Alors, quand j'entends la demande de privatisation, c'est la demande de privatisation de qui ? Je veux dire, qui a demandé aujourd'hui à privatiser la SNCF ? Moi, j'ai pas entendu dans le programme du président qu'il y avait une privatisation de la SNCF en ligne de mire. Puis après, on peut pas abonder, je veux dire, dans le sens des exemples que donne monsieur. Voilà, les pays qu'il a cités, les réseaux sont massivement investis, comme le disait Gilles Dansard, par l'argent public, et du coup les marges, je veux dire, sont nettement plus importantes.
Alors vous parlez de quel pays, Eric?
La Suède, le Japon.
Juste un exemple. Au Japon, maintenant cités. Vous avez pratiquement plus personne dans le train, c'est-à-dire que tout est pratiquement géré par de l'intelligence artificielle. Et je pense là, juste, je voulais rendre la parole, mais je pense qu'un des enjeux aussi, c'est de se poser la question combien de temps est-ce qu'il y aura quelqu'un dans la cabine pour conduire le train. C'est-à-dire on fait un statut pour des gens en leur disant vous allez faire votre carrière à la SNCF, mais est-ce que dans 20 ans il y aura encore quelqu'un pour conduire un train? Oui. Vous avez déjà des métros qui fonctionnent sans personne. Pourquoi est-ce que les trains sur le réseau banlieue, qui est quand même là aussi un des principaux réseaux de fonctionnement de la SNCF, pourquoi est-ce que ces trains ne seraient pas eux-mêmes pilotés par l'intelligence artificielle?
Et en même temps, il y a des ambitions de modification, de transformation des métiers, Éric Meyer.
Oui, mais pour finir de répondre, il faut quand même savoir que sur le réseau transilien d'Île-de-France, on a encore des pièces qui datent d'après-guerre. Je veux dire, donc d'ici à arriver à une modernisation complète, je veux dire une rénovation complète, c'est compliqué. Après, sur les suppressions de personnel et sur la paupérisation, elle est déjà à l'œuvre dans les gares, monsieur. Cet été, il fallait plus de 3 heures, et ça a fait la une des journaux aux usagers pour pouvoir retirer un billet. Aujourd'hui, vous n'avez plus de cheminots dans les gares. Il n'y a plus que des sous-traitants, je veux dire, qui sont précarisés et paupérisés. Donc ça, le ça. Il y a ça a déjà commencé.
Il y a une inquiétude, en tout cas, Gilles Dansart, et une nécessité qui apparaît de repenser ce cadre social.
Il faut repenser le ferroviaire dans son ensemble, c'est-à-dire que stabiliser les financements pour donner de la visibilité. Le réseau a pris beaucoup de retard parce que on a cassé le réseau. On l'a laissé se dégrader et tous les rapports privés comme publics sont d'accord là-dessus. Donc, il est dans un état assez déplorable, très contrasté, mais assez déplorable. Donc, la technologie ne fera pas tout. Donc, il faut de la visibilité et de l'argent pour remettre le réseau à niveau. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire effectivement comme au Japon ou dans les pays les plus modernisés. Mais ça commence d'abord par avoir des bons fondamentaux, c'est-à-dire un réseau de qualité et du matériel qui roule. Les compagnies japonaises, effectivement, sont très puissantes, mais le modèle est différent. Elles sont assises sur une richesse extraordinaire qui est, elles sont des propriétaires fonciers et elles ont des revenus absolument gigantesques nés de leur propriété des immeubles le long des voies. Donc on est dans un système différent. Mais qu'est-ce qu'il faut tirer comme conséquence de ce modèle japonais? C'est qu'il y a une stabilité des revenus. C'est-à-dire la compagnie japonaise peut dire sur 10 ans de combien elle va disposer et puis du coup avoir des vrais plans. Nous, en France, tous les ans, ça change au gré du collectif budgétaire, ça change au gré des alternances politiques. Donc il n'y a pas de stabilité. Et donc on joue au yo-yo et quelque part, bah, finalement, les dirigeants font un peu ce qu'ils peuvent et puis finalement, ils font ce qu'ils veulent aussi parce qu'il n'y a pas de vraie tutelle du gouvernement.
Et c'est dans ce contexte que Guillaume Pepy a annoncé qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Alors, est-ce que le choix du futur PDG de la SNCF sera déterminant pour vous, Éric Meyer?
Aujourd'hui, dans le schéma de 5 sociétés anonymes, alors qu'on nous avait, au mois de février dernier, lors de la conférence de presse du Premier ministre, promis quelque chose de plus unifié, déjà en termes de dérive des coûts, quand vous allez de 3 entreprises à 5 entreprises, les coûts d'interface, les coûts organisationnels explosent. Donc voilà, pour répondre sur la partie économique et des coûts, pour dire que là, c'est vraiment les salariés qui vont en pâtir. Après, pour remplacer Guillaume Pepy dans le contexte d'aujourd'hui, personne. Parce que aujourd'hui, si vous êtes président de la SNCF de demain, vous êtes aux ordres de l'Agence des participations de l'État de Bercy, vous avez quasiment aucune marge de manœuvre.
Donc pour vous, que ce soit, je cite les deux candidats principaux, Jean-Pierre Farandou, qui est le PDG de Keolis, la filiale de la SNCF, spécialiste du transport urbain en région et à l'étranger, ou que ce soit Patrick Janté, PDG de SNCF Réseau et également président délégué du directoire du groupe SNCF, finalement ça revient au même?
Bon, disons qu'on entend beaucoup qu'il faut un profil industriel. Nous, on pense que, vu ce qu'il est en train de se passer, un profil social, je veux dire, pour résorber la véritable fracture qu'il y a aujourd'hui et même rupture organisationnelle pour plein de cheminots et de souffrances. Hein. Moi, je tiens quand même à rappeler qu'en 2018, on a eu plus de 50 suicides de cheminots.
Donc, ce profil social, vous ne le voyez pas apparaître.
C'est plutôt un profil social. Et parmi les deux candidats qui apparaissent, Jean-Pierre Farandou, qui est le candidat de Guillaume Pepy, et Patrick Jeantet, qui a toujours été, entre guillemets, un petit peu le challenger, l'adversaire de Pepy depuis qu'il a été nommé à la tête de SNCF Réseau. Pour nous, voilà, aucun de ces deux profils-là.
On a pu entendre que Jean-Pierre Farandou serait peut-être plus enclin, avec son statut lui-même d'ancien cheminot, peut-être plus ouvert aux négociations. Gilles Dansart, qu'est-ce que vous en pensez?
On est un peu dans la nuance là, c'est-à-dire effectivement les présidents de la SNCF ont une extrême difficulté à gérer toutes les injonctions contradictoires, de l'État et de la puissance publique, puisque effectivement, c'est l'État, ce sont les régions qui le financent. Mais du coup, dans cette configuration, et surtout après un long bail de Guillaume Pepy, ça fait 20 ans voire plus qu'il est aux manettes, on peut considérer que un patron ou une patronne ou un tandem à la tête de la SNCF peut peut amorcer un vrai changement, non pas tant par rapport à, encore une fois, à toutes ces influences financières et ces injonctions de l'État, mais dans la façon dont il peut ou elle pourrait gérer mieux le dialogue social à l'intérieur de la SNCF et réconcilier un peu les cheminots avec leur cadre dirigeant.
Alors, à partir du 1er janvier 2020, les futurs recrues de la SNCF ne pourront plus obtenir le statut de cheminot, on l'a dit, et on a parlé de ce nouveau pacte social entre l'entreprise et les cheminots qu'il fallait réinventer. Des négociations qui ont lieu au niveau de la SNCF, Gilles Dansart, mais aussi au niveau de l'UTP, l'Union des Transports Publics et Ferroviaires, qui regroupe le patronat des grandes entreprises de transport.
Oui, ce sont des négociations assez compliquées puisqu'elles sont parallèles. Hein, une négociation de branche qui concerne toutes les entreprises ferroviaires et une négociation spécifique à la SNCF. Le gouvernement a voulu aller vite, trop vite par rapport au temps que demandent ces négociations. Donc rien n'est fini, ni à l'UTP qui en a encore pour de longs mois, ni à la SNCF qui manifestement en 3 mois va pas pouvoir aller au bout du travail. Donc c'est le calendrier a été sans doute un peu trop volontariste, d'autant qu'il a été compliqué par la fin du statut qui a été décrété pour le 1er janvier 2020. Au lieu d'aller au bout de la négociation de branche et après de voir comment on allait faire, bon, tout a été un peu mêlé et du coup aujourd'hui on est quand même dans une grande mêlée. C'est un peu la Coupe du Monde de rugby avant l'heure. Tout ça est dans une grande confusion. Donc je ne sais pas ce qui va sortir de toutes ces négociations en cours.
Les délais sont trop serrés. Éric Meyer, qu'est-ce qui va se passer concrètement?
Aujourd'hui, ne serait-ce que le changement des statuts juridiques de l'entreprise, plus la définition du nouveau cadre social, tout ça a été voté dans la loi il y a un peu plus d'un an maintenant, et il aura fallu attendre quasiment le même temps juste pour avoir de la part du gouvernement le cadre des 5 sociétés anonymes, etc. Et de par le calendrier qui s'est lui-même fixé, il nous reste aujourd'hui 3 mois pour définir l'ensemble du cadre social, soit 9 accords d'entreprise, 4 concertations en entreprise, 3 accords de branche, en 3 mois. Je veux dire, c'est totalement inédit et ça montre bien, je veux dire, qu'aujourd'hui, les conditions de travail des salariés, c'est pas la priorité ni du gouvernement ni de la direction SNCF.
Repenser un cadre social, ça va être une entreprise particulièrement compliquée, Jean-Marc Daniel.
Oui, je pense qu'il faut repenser un cadre social dans un contexte où il faut repenser, comme on l'a dit déjà, l'ensemble du contexte général. C'est-à-dire qu'on est passé d'une SNCF, on parlait de Patrick Jonté, qui est un ingénieur du corps des ponts. La tradition historique de la SNCF, c'était le corps des ponts, c'était l'étoile Legrand. Legrand, c'était le grand ingénieur des ponts qui avait défini le réseau sous Louis-Philippe. C'était le roi qui définissait le réseau. Tout ça, c'est fini. On l'a dit, au Japon, les entreprises japonaises, elles intègrent le chemin de fer, non pas dans la pensée du roi et du corps des ponts, mais dans un programme général de capacité à générer des profits à partir de leur assise foncière, à partir de la gestion de l'environnement des chemins de fer. Donc, je crois qu'il y a un premier problème qui est de redéfinir une forme de liberté dans un pays qui a conçu, même si c'était au départ privé, ces chemins de fer de façon très centralisée. Hein, ce que j'appelle l'étoile Legrand, c'était le réseau initial, tout allait à Paris. Et donc, il y avait une espèce de prise en main directe par le pouvoir.
Et pour vous, cette décentralisation aujourd'hui, c'est une bonne chose?
C'est une
avancée?
Une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose que les régions soient en capacité de prendre des décisions. Et je pense que, j'espère qu'on ne reverra plus ce qu'on a vu sous le précédent quinquennat, un ministre des Transports dire que la SNCF est en propriété de l'État, elle appartenait à l'État, et que quand on lui demandait d'acheter à Alstom des TGV dont elle n'avait pas besoin, la SNCF s'exécuterait.
C'est-à-dire... Ça continue, hein.
Oui,
ça continue. Il y a quelques semaines, c'est exactement ce qui s'est passé.
Et donc, il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cette situation où la SNCF est un des lieux où on éponge les erreurs et l'incompétence du gouvernement. Elle n'est pas faite pour ça.
Non, mais aujourd'hui.
La deuxième chose, juste pour finir, puis après je vous rends la parole. Concernant les statuts, je pense qu'il faut davantage de souplesse. Et là aussi, il y a 2 raisons qui me paraissent évidentes. La première, c'est que le métier de cheminot va considérablement évoluer. Encore une fois, il y a des métros. Alors, je suis d'accord avec vous, le RERD, quand on le prend, on est assez saisi, mais le RER A lui-même, on est en train de le refaire, mais enfin, il a 50 ans, donc il y aurait besoin, mais le matériel qui arrive, il ne sera pas le même matériel que celui qui circule en ce moment. Il faut adapter. Et il faut davantage reconnaître les compétences. On le voit bien, un des avantages des entreprises privées, c'est qu'elles sont capables de payer très très cher des prestations très exigeantes sur la conduite de certains trains. Et en revanche, de dire, il y a des endroits où on a besoin de personne.
On en revient toujours avec cette question de l'entreprise privée qui serait meilleure gestionnaire que le public. Éric Meillard, vous vouliez réagir?
Oui, l'entreprise privée est meilleure gestionnaire que l'entreprise publique. Dans le cas de ferroviaire, voilà, on voit aujourd'hui l'état catastrophique des entreprises ferroviaires soi-disant privées de fret ferroviaire qui sont en réalité, mis à part une, tout adossées à un opérateur historique européen, qui perdent des centaines de millions d'euros par an. Voilà, et pour en revenir au cadre social, moi je suis désolé, on ne définit pas, je veux dire, le règlement intérieur de 5 sociétés, le cadre social complet de l'ensemble des cheminots et des futurs travailleurs du rail sur 3 mois.
Ça, je suis assez d'accord avec vous. Je pense d'ailleurs que la vraie question, c'est comment on peut laisser un cadre suffisamment large et suffisamment souple pour l'adapter en permanence à, je maintiens, ce que va devenir le métier de cheminot.
En l'occurrence, une des questions centrales, c'est celle des contractuels. Gilles Dinsart, qui représente environ 10% des effectifs de la SNCF. La question, c'est est-ce qu'ils réussiront à négocier de meilleurs salaires en contrepartie de la suppression de ce statut de cheminot?
Oui, certainement, il y a déjà des appels du pied pour augmenter le salaire, ce qui posera d'ailleurs un problème de contraste entre les salaires des cheminots encore au statut et ceux qu'on va embaucher un peu plus cher pour les attirer. Mais il y a un autre problème qui est plus important, qui est le problème de la sous-traitance. C'est pas évident dans une industrie de réseau et dans une industrie avec de telles routines de travail dans l'exploitation, dans la surveillance du réseau, de faire appel à des sous-traitants qui parfois n'ont pas la culture du travail et les connaissances suffisantes. Donc il y a ce problème-là qui est au moins aussi important que la question du statut et des contractuels. Et il y a un troisième problème qui domine à mon sens un peu tout ça, c'est le fait d'avoir découpé la SNCF en activités. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est le système de péréquation qui garantissait l'unité du système. C'est-à-dire qu'en gros, pour aller vite, les bénéfices du TGV pouvaient aider le TER à se développer. À un moment, ça a été le fret qui a fait ça il y a 40 ans, etc.
Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où SNCF Réseau va devoir potentiellement superviser l'arrivée des concurrents.
Oui, mais c'est surtout qu'on a isolé les activités. On a plus fait un grand système solidaire où les activités pouvaient un peu... parce que au nom de la concurrence, notamment, il faut isoler. Et Bruxelles y est très attentif, et les régulateurs français aussi. Il faut isoler les activités. Et ça, c'est un vrai choix historique. C'est-à-dire que les sociétés japonaises, par exemple, sont intégrées. C'est-à-dire qu'elles ont l'infrastructure, l'exploitation, etc. Et elles font leur salade à l'intérieur. Nous, on a un peu découpé tout ça, ce qui fait que ça donne une autre tonalité à la SNCF et aux ferroviaires français. Et je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment prêt à ça, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus absorber les désagréments ou les revers de telle activité par les bénéfices d'une autre.
Et c'est une tendance à la division qui est ancienne, puisque c'est dès 97 que la SNCF était coupée en deux, entre SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Et puis en 2014, cette fois, on est arrivé à 3 EPIC, donc c'est les établissements publics à caractère industriel.
On n'a toujours pas vraiment choisi le modèle, hein. On hésite. À un moment, on fait de l'intégration, à un autre moment, on isole toutes les activités. Donc tout ça est assez, c'est un peu un grand chantier.
Éric Meillard, sur cette division des activités.
Bah oui, cette division, Gilles Dinsart l'a bien pointé, aujourd'hui, et même pour l'activité TGV, on parlait du TGV où les entreprises privées vont venir s'installer, etc. C'est le TGV, il faut savoir que c'est ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier de cette année. Mais la question de la péréquation sur l'étoile, la fameuse étoile, et d'aménagement du territoire dans l'urgence écologique, parce qu'on peut dire qu'on est dans un système d'urgence écologique. Aujourd'hui, cette péréquation, elle existe même intra-activité. Aujourd'hui, vous avez trois lignes TGV qui font vivre l'ensemble du système. Si demain, Vous ouvrez à la concurrence de manière sauvage, comme ça va être fait au TGV. Si la SNCF perd des parts de marché sur le Paris-Lyon, eh ben toutes les transversales ou toutes les dessertes de villes moyennes en TGV, elles seront remises en question parce qu'il n'y aura plus les financements.
Jean-Marc Daniel, sur est-ce que c'était une bonne idée de diviser ainsi les activités de la SNCF ?
Je pense que l'idée, encore une fois, c'était de satisfaire un cadre intellectuel qui a été défini à Bruxelles. Sachant qu'on est dans un... Bruxelles est obligé de réagir à 28 réseaux, parce que le réseau britannique a été associé à cette opération.
Alors ça, faut l'expliquer à Jean-Marc Daniel, qu'effectivement, cette libéralisation des transports, du transport des voyageurs, ça intervient dans le cadre de règles européennes.
De règles européennes, mais les pays ont commencé avant. La Suède avait commencé avant, on a parlé du Japon qui avait commencé avant. Et en Europe de l'Est, ça a été parmi les premières entreprises qui ont été mises soit en concurrence, soit sur le marché, les réseaux de chemin de fer. Donc, justement, Bruxelles a été un peu poussé par un certain nombre de pays qui étaient en la manœuvre et a défini un cadre. Et donc ce cadre, il n'est pas forcément le plus adapté à certaines formes d'organisation. Je pense qu'effectivement, interdire l'intégration de certaines activités, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais l'idée, c'est quand même qu'au final, par la concurrence, les prix baisseront, et que comme les prix baisseront, il y a un certain nombre de gens qui vont de nouveau reprendre le train. La deuxième idée, c'est qu'on devrait voir apparaître là aussi des opérateurs qui sont des opérateurs en concurrence. On parle du TGV, donc le TGV va être identifié. On va voir ressurgir des projets comme celui qu'avait à un moment donné envisagé Air France, qui consistait à utiliser le fait que l'aéroport de Lyon était lui-même en cours de privatisation, donc était dans une phase un peu de dynamisation et de recherche de recherche de clients, et donc de faire atterrir les avions qui arrivent de l'Est, de les faire atterrir à Lyon Saint-Exupéry, et puis de les envoyer par le TGV jusqu'à la gare de Lyon à Paris, en disant, au final, vous arrivez au centre de Paris, à peu près avec le même temps que si vous arrivez à Roissy, mais ça suppose que, effectivement, on puisse faire circuler des TGV Air France sur, Or, pour l'instant, c'est assez des projets. Je pense que fondamentalement, ça va émerger. C'est ça qui va se passer quand on aura bien défini ce cadre, et qui est pas forcément optimal, mais qui a besoin d'être stabilisé, et surtout, qui a besoin d'être expérimenté.
Mais alors, pour bien comprendre, en quoi est-ce que le fait que la SNCF était constituée de ces trois EPIC, ces établissements publics à caractère industriel et commercial, en quoi cela posait problème à Bruxelles? En quoi ça contrevenait au droit de la concurrence, Jean-Marc Daniel?
Parce que l'idée, c'était d'identifier des véritables fonctions que l'on puisse à chacune mettre en concurrence avec des entreprises qui serait sur ce créneau-là. Vous avez en Italie, par exemple, la concurrence a été ouverte sur les TGV, ce qui a considérablement fait baisser le prix du billet, mais les entreprises qui sont portées sur le TGV sont uniquement sur le TGV. Et donc, il y a cette idée, c'est que plus on a d'entités qui sont clairement identifiées avec une logique, et plus on peut faire jouer la concurrence, et à partir du moment où on peut faire jouer la concurrence, on peut faire baisser les prix. Mais vous avez effectivement, après, le problème, c'est que dans une entreprise qui est intégrée, c'est là aussi dans le modèle japonais, on sait bien que pendant très longtemps, sur tout un autre secteur, les pertes de la sidérurgie ont été compensées par l'automobile parce que c'était la même entreprise. Donc après, vous avez un problème de réorganisation.
Éric Meyer.
Oui, moi je suis pas d'accord. La seule obligation réglementaire qui est fixée aujourd'hui par Bruxelles, c'est celle de l'indépendance de celui qui vend les sillons. C'est-à-dire c'est la seule obligation, celle d'avoir un calendrier d'ouverture à la concurrence.
Donc les sillons, après, il faut expliquer pour les auditeurs, Éric Meyer, c'est le terme technique.
Quand vous prenez un TGV de Paris à Lyon, vous réservez le créneau horaire du TGV, c'est ce qu'on appelle le sillon. Et dans le cadre de l'indépendance justement de tous les opérateurs, il y a l'obligation d'indépendance du service ou de sociétés qui vont les sillons. Mais en termes et l'obligation de mettre en place un calendrier d'ouverture à la concurrence. Mais le fait de découper en 5 sociétés, je veux dire, c'est absolument pas une obligation. Oui, c'est un choix politique.
Un choix pratique.
Le gouvernement est allé plus loin que les préconisations de Bruxelles.
Bon, il s'est appuyé effectivement sur ces préconisations pour imposer sa réforme. Mais il faut sans doute regarder les organisations en fonction des situations. Qu'est-ce que je veux dire par là? En zone dense, prenons par exemple le réseau Saint-Lazare. Est-ce que c'est bien sérieux dans une telle surcharge, une telle densité, de jouer à mettre plein d'opérateurs? Honnêtement, les Anglais, ils sont revenus là-dessus. Il faut sans doute revenir à quelque chose d'intégré. En revanche, que des opérateurs fassent preuve d'imagination pour sauver des petites lignes avec des coûts différents, avec des méthodes d'exploitation différentes, ça ne me paraît pas du dumping social ou absolument anormal. Donc il faut regarder selon les situations. En zone dense, l'intégration s'impose. Sur les petites lignes, je pense qu'il peut y avoir des opérateurs imaginatifs différents, de proximité avec les collectivités locales, avec les habitants, etc. Et sur le TGV, je doute que des grands investisseurs mondiaux viennent essayer de chatouiller SNCF.
Alors, on arrive presque au terme de ce débat. Ces 20 dernières années, le gouvernement avait promis que France Télécom et Gaz de France resteraient publics. Or, l'État ne détient plus que 23% d'Orange, ex-France Télécom, et 23% d'Engie, issu de la fusion entre Gaz de France et Suez. Pour conclure, Éric Meyer, est-ce qu'il faut redouter aujourd'hui que la SNCF suive la même voie ?
Oh ben, je dirais qu'elle est toute tracée déjà. Et le découpage qui est issu de l'ordonnance qui fixe les 5 sociétés anonymes le montre bien. On se dirige tout droit dans des modèles qui à horizon 5 ans seront ouverts au capital parce qu'il y aura besoin d'investissement comme dans les gares, dans les réseaux, dans le matériel, et à horizon 5 à 10 ans un passage de l'État en minorité dans ces sociétés.
Et cela alors même que le gouvernement ne cesse de marteler qu'il ne s'agit pas d'une privatisation, Gilles Dansart.
Oui, moi je ne crois pas à terme à une complète privatisation. Non pas que certains n'en aient pas envie, mais parce que je pense qu'on est dans un pays assez particulier, avec un poids des structures publiques, État, collectivité qui reste fort, avec un attachement des Français qui reste fort. Je ne suis pas certain qu'on aille au bout des idées de certains et qu'il y ait cette fameuse privatisation de tous les éléments. Qu'il y ait de l'argent privé qui vienne dans le système, comme par exemple les gaz, etc., c'est évident, mais qu'on change la propriété et que, par exemple, qu'on privatise le réseau, etc., je ne crois pas que ça arrivera. Mais encore une fois, les exemples que vous avez pris montrent le contraire. Mais je pense que l'activité ferroviaire, à la fois, est très spécifique et il y a un rapport des Français à cette activité qui est absolument particulier.
Le ferroviaire est spécifique, vous êtes d'accord avec là, Jean-Marc Daniel ?
Non, je ne pense pas qu'il soit spécifique. C'est un monopole, mais on sait traiter les monopoles naturels, théorie économique. Non, je l'ai dit au début de cette émission, je pense que tout est mis en place pour la privatisation. Et donc, vous avez cité un certain nombre d'exemples. Je rappellerai que celui qui a le plus engagé la privatisation de France Télécom, c'est le gouvernement Jospin. Et c'était au centre de la campagne électorale du Parti Socialiste de 97.
Comme les autoroutes.
Comme les autoroutes, de ne pas privatiser. Bon, donc je pense que la privatisation sera. Alors après, certains pensent que c'est une mauvaise chose. Moi, je pense que c'est souhaitable.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les trois de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Éric Meyer, Jean-Marc Daniel et Gilles Dansart. Il est 14h42 sur France Culture et c'est l'heure pour nous de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Et aujourd'hui, on se plonge dans La grande transformation de l'économiste hongrois Karl Polanyi, un ouvrage écrit en 1944 et c'est Jérôme Maucourant qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en duplex de Lyon. Vous êtes l'un des grands spécialistes de Karl Polanyi. Vous avez notamment écrit « Avez-vous lu Polanyi ?» paru il y a quelques années aux éditions de La Dispute. Et vous êtes par ailleurs maître de conférence en sciences économiques à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors la première grande théorie de Polanyi dans cet essai qui constitue sans doute son œuvre la plus aboutie, c'est que l'économie s'est désencastrée, un terme qui revient souvent sous sa plume, c'est-à-dire que l'économie s'est détachée des autres institutions sociales dans lesquelles elle se fondait et a pris une place dominante et autonome avec ses règles et sa logique propre. C'est ce phénomène qui constitue, selon Polanyi, cette grande transformation dont il fait le titre de son essai.
Vous allez au cœur du problème, mais en même temps cette formulation est très compliquée. C'est-à-dire que Polanyi ne dit pas que l'économie est réellement autonome, en fait. Ce qu'il dit, il dit que c'est une utopie sombre. Il dit que c'est une tentative de construire effectivement l'économie comme en dehors du social. Et c'est parce que cette tentative est vouée à l'échec que effectivement la civilisation libérale s'est effondrée, notamment en 1929. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses entre un projet social qui finalement est l'expression d'une certaine mentalité collective, d'un moment de civilisation, et le fait de réellement construire quelque chose de cet ordre-là.
Pour lui, le marché, c'est une construction historique récente, finalement, qui date du 19e siècle. Et l'homo economicus, donc calculateur, motivé par le gain, là encore, c'est le produit d'une nouvelle culture politique apparue au 18e siècle.
Alors, ce qu'il dit précisément, notamment, alors, vous avez cité La Grande Transformation, mais dans un ouvrage plus récent que j'ai réédité avec mon ami italien Michele Cangiani, qui est aussi spécialiste de Polanyi, c'est que les marchés sont très anciens. En réalité, ce qui est nouveau, c'est le fait de connecter ces marchés entre eux, en quelque sorte, pour qu'ils forment un système qui a une vocation, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, qui en réalité ne réussit pas vraiment, mais en tout cas c'est bien ce que les promoteurs du marché qui sont marqués par ce qu'ils appellent la mentalité de marché veulent faire. Donc c'est effectivement cette idée de faire du marché un système autonome. Mais c'est vrai, le marché est ancien. Le grand marché, one big market, comme il l'appelle, ça, c'est tout à fait récent. Et pour lui, ça se constitue en Angleterre quand un véritable marché du travail est créé, c'est-à-dire qu'on supprime les lois sur les pauvres et on force effectivement la force du travail à subir les aléas du marché. Quand on considère que l'homme est une marchandise comme une autre, et que ce nom de l'homme, dans la pensée marchande, c'est le travail, donc on considère finalement que le travail est une marchandise, alors là, on a effectivement une étape décisive de la création du grand marché. Ce qui est important, c'est que Polanyi souligne que, en réalité, le travail, c'est le titre d'un de ses chapitres, est une marchandise fictive. L'homme, la nature, la société n'ont pas été produites pour être vendues. Mais dans le système de la civilisation utilitariste marchande, on fait comme si. Et donc cette fiction de la marchandise a des effets absolument redoutables, mais en même temps, il faut le dire, du point de vue de la production marchande elle-même, cela a eu des rendements tout à fait extraordinaires également. Et donc, pour conclure sur ce point, Polanyi nous dit que économiquement, il y a pu y avoir des réussites, mais culturellement, il y a eu des catastrophes.
Karl Polanyi est également anthropologue et il montre que cette autonomisation de la sphère économique, c'est un phénomène culturel et politique que l'on ne constate pas, par exemple, dans les sociétés primitives.
Oui. Et alors il se dit en cela, dans sa recherche guidée par Aristote, il pense qu'Aristote avait l'idée, je crois assez juste, que l'économie est en principe effectivement immergée dans le social. Mais c'est vrai que l'anthropologie lui a donné plutôt raison de ce point de vue-là. C'est vrai que cette idée de soumettre tout à une logique économique fondée sur des marchés concurrentiels, à la rationalité utilitariste, c'est en réalité extrêmement récent. Il remet finalement cette invention dans la longue durée de l'histoire humaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette invention-là pouvait obéir à certaines nécessités. Alors, ce qu'il explique, c'est que effectivement, dans une société déjà marchande, quand le machinisme se développe, je pourrais revenir sur ce point, on peut avoir c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, un emballement de ce système d'interconnexion et de construction de marché. Ça, c'est vrai. Mais pour réaliser ce projet d'une société très largement marchandisée, Polanyi insiste sur un point qu'on appelle dans la pensée économique le mercantilisme, c'est-à-dire que les États européens, qui étaient en conflit permanent, dont l'objet était de capter un maximum de ressources monétaires, ont poussé effectivement à la multiplication des marchés. Hein. Car quand il y a des marchés, la fiscalité peut intervenir et à partir de là, effectivement, on peut payer des mercenaires, payer des armées régulières et financer des guerres qui le sont. Donc il y a eu des progrès concomitants, si vous voulez, de l'État, de la guerre, de la rationalisation de celle-ci, des marchés. Et au bout d'un moment, effectivement, et ça c'est ce qui se passe avec la grande révolution des machines en 18e, 19e siècle, et c'est en cela, effectivement, que l'Occident va différer très largement du reste du monde, eh bien, le machinisme va accélérer le processus de marchandisation.
Et alors, Jérôme Maucourant, dans La Grande Transformation, Karl Polanyi propose une thèse originale sur la montée du fascisme à laquelle il assiste depuis la Grande-Bretagne. Le fascisme, dit-il, n'est pas un simple outil de la bourgeoisie pour perpétuer son pouvoir ou un courant réactionnaire ou conservateur. C'est d'abord et avant tout un effet de la crise de la société de marché. Et là, on retrouve son autre grand apport, c'est la théorie du double mouvement, qui estime qu'il n'y a pas de libéralisme sans contre-coup. Le fascisme serait donc un contre-coup du libéralisme.
Oui, vous êtes une très bonne lectrice. Certains textes qu'on a aussi publiés avec Michele Cangiani aux éditions du Seuil, dans les essais de Polanyi, montre un Polanyi journaliste qui produit beaucoup d'analyses sur le fascisme, le nazisme, et petit à petit, il va construire cette pensée qui va aboutir à ce que vous décrivez. Alors, en réalité, la grande transformation a comme sous-titre « Aux origines politiques et économiques de notre temps ». Et il le dit d'emblée, « Je veux comprendre pourquoi il y a eu ce qu'il appelle le fascisme allemand ». On dirait nous le nazisme. C'est la grande interrogation du temps. Et il dit, ben voilà, je propose une hypothèse qui peut sembler extravagante pour certains, en tout cas extrêmement brutale. Il y a un lien qui existe entre l'Angleterre de Ricardo, c'est-à-dire effectivement ce machinisme couplé avec ces sociétés utilitaristes marchandes qui va se développer très très vite, et les destructions culturelles et sociales que cela va impliquer, et précisément ce contre-mouvement catastrophique que le fascisme va incarner au XXe siècle. Alors, c'est une thèse qui est assez importante, qui a été discutée. Son propre frère, qui lui était un intellectuel, on dirait néolibéral, pensait au contraire que, en réalité, s'il y a eu des réactions fascistes, c'est que la petite bourgeoisie avait peur du communisme. Et donc, apeurée en fait par la menace bolchevique, elle s'est jetée dans les bras donc de l'extrême droite. Ce sont des thèses d'ailleurs qui ont été reprises bien par la suite par un historien allemand qui s'appelle Ernst Nolte. Voilà. Donc les deux frères s'affrontent sur ce sujet, et je pense que Polanyi a comme avantage sur son frère qui s'appelait Michael Polanyi de proposer une histoire de deux siècles qui nous permet de rendre plus justement compte de cette grande causalité. Alors, je reviendrai sur l'histoire du double mouvement. En effet, il y a eu, durant l'époque mercantiliste, c'est-à-dire en gros 16e, 17e, 18e siècle, une politique des états d'institution des marchés. Mais ensuite, et Polanyi comprend que, et il le dit d'ailleurs, que la pensée libérale traditionnelle s'est totalement trompée sur ce point, faire marché des marchés, si j'ose dire, c'est compliqué. Il faut une réglementation, il faut que l'État intervienne, car sinon, immédiatement, les conséquences pour la main-d'œuvre, penser au travail des enfants, penser à l'environnement, penser même à la gestion de la monnaie, serait catastrophique. Donc en fait, ce que montre Polanyi, c'est assez original, c'est que la marchandisation va de pair avec l'intervention publique. C'est quelque chose qui est toujours allé de pair, en quelque sorte. C'est-à-dire, dès que le marché, on le croit, commence à marcher à nu, mais en fait, l'État et tout un certain nombre de codifications sociales permettent au système de marché de continuer. Ce qui se passe, nous dit Polanyi, c'est là une dialectique qui peut être négative, c'est qu'un certain nombre effectivement de contre-mouvements suite à ces mouvements d'institution du marché peuvent déstabiliser le système. Donc la dialectique du double mouvement peut engendrer effectivement des catastrophes dont le nazisme en est un.
Mais alors ce qui est intéressant et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que cette théorie, dans cette théorie du double mouvement de Karl Polanyi, donc selon laquelle il n'y a pas de libéralisme sans contre-coup, le contre-coup peut être le fascisme ou, à l'autre bout de l'échiquier politique, l'État-providence.
Absolument. C'est-à-dire que ils ont en commun ces deux tentatives, en quelque sorte, d'admettre que la coupure entre les institutions politiques et économiques de la société n'est finalement pas tenable. Alors, évidemment, c'est pour faire des choses assez différentes. Mais à chaque fois, enfin, Polanyi le dit, il y a une question de défi vital qui est adressée aux sociétés. Et donc, alors, le problème, c'est que, c'est intéressant, dans le cas du nazisme, effectivement, c'est une reprise en main par le système de la propriété privée, il le dit très clairement, ça, de l'ensemble du système politique et de l'extermination de toutes les formes de démocratie qui peuvent exister dans ce système. Donc on a une sorte de système politico-économique un peu monstrueux qui se crée, qui est finalement la réponse pathologique à une séparation qui était non moins artificielle entre le politique et l'économie. Mais effectivement, s'il s'agit de contrecarrer les effets pervers de cette séparation en quelque sorte problématique, on peut faire autrement. Alors, il y a des choses beaucoup moins inquiétantes, mais très révélatrices. Par exemple, George Bush lui-même avait dit, il avait reconnu que pour sauver la libre entreprise en 2008, eh bien il fallait mettre entre parenthèses les règles de la libre entreprise. Vous savez, ce sont ces interventions massives sur le marché des changes, l'intervention du Trésor américain. Non, ça c'était une façon de prouver, mais la crise, le symptôme le prouve, qu'en fait le politique est toujours là. Et c'est pourquoi, je crois, Polanyi a eu fondamentalement raison de dire que le libéralisme qu'il a connu est mort définitivement. Les types d'interventions que par exemple on connaît, hein, sur les marchés monétaires financiers était totalement inconcevable à l'époque du libéralisme économique traditionnel. Donc il avait raison de penser qu'on ne reviendrait jamais au libéralisme de type classique, qui est définitivement mort dans les années 30.
Qu'est-ce que Polanyi préconise ? Comment redonner au marché sa juste place dans la société, Jérôme Maucourant ?
Mais il faut le subordonner, en quelque sorte. Et on peut dire que Polanyi, c'est un penseur de la social-démocratie naissante. Alors, pour subordonner les marchés, ben, il faut effectivement qu'il y ait une sphère politique qui puisse fonctionner. Et là, il lance un autre débat contre les libéraux sur la question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il a bien repéré que beaucoup de penseurs libéraux, et très conséquents d'ailleurs dans le néolibéralisme, c'est ce qu'on va développer, qui pensent que les idées de souveraineté sont absolument ridicules. Certains pensaient même que le niveau d'interdépendance économique atteint en 1913 rendrait toute forme de guerre impossible. Vous remarquerez que c'est assez drôle, hein, si l'on peut dire, de regarder ça rétrospectivement. Et Polanyi dit, ben, en fait c'est ça, les libéraux ont du mal avec les concepts collectifs de nation et de souveraineté, donc lui, il en appelle précisément, alors notamment, ça c'est pour son époque, à la fin de l'État noir, c'est-à-dire un mécanisme d'émission monétaire qui soit déconnecté et des volontés nationales et donc des pouvoirs politiques particuliers.
Et aujourd'hui, quel est selon vous l'héritage des écrits de Karl Polanyi, Jérôme Maucourant ? En quoi il serait peut-être toujours d'actualité selon vous ?
Alors, pour moi, il est d'actualité parce que la matrice du néolibéralisme, c'est tout de même le libéralisme. Sauf que effectivement, on a pu rationaliser ce système compte tenu des failles et des catastrophes qu'il a produites. Mais l'esprit du marché est là d'une certaine façon. Et cette critique quant au principe est tout à fait nécessaire. On peut dire, alors c'est assez multiforme, si vous voulez. C'est-à-dire que Polanyi, c'est celui qui avant tout le monde dit que le monde n'est pas une marchandise, par exemple. C'est celui qui dit que la monnaie doit être gérée démocratiquement. Il nous explique que le travail ne peut pas être laissé aux aléas du marché, etc., etc. Et la terre, bien évidemment, il a des phrases très importantes, hein, sur le fait que la nature ne saurait survivre dans un mécanisme utilitariste marchand. Donc on peut dire qu'il peut être à l'arrière-plan d'un certain nombre de critiques essentielles qui sont adressées à la société de marché, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croit fondamentalement à la politique et donc qui défend cette idée de la souveraineté contre justement ce qui serait un peu la pensée marchande accomplie, c'est-à-dire la souveraineté des peuples du monde contre la souveraineté du capitalisme ou du marché.
Un grand merci Jérôme Maucourant. Je rappelle votre livre « Avez-vous lu Polanyi ?» paru aux éditions de La Dispute. Et un grand merci également à Claire Vuillot depuis les bureaux de Radio France à Lyon. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yard. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. There will be highs and lows. Thank God I'm rimming okay, okay, not blues. Damn it, how glasses drive me insane and I'm amazed. When I think about how lucky I am to wake up in a country full of bombings, killings. Out of them I got no fucking problems. Glad you never tried to pull me down. Oh, too many times I did you wrong. Digging in my enemy, then I find me enemies of the fucking people way too strong. And I keep those diamonds in my mind too long. No, they don't believe me cause I look too young. Can every time I see the beauty be the day, coming too quickly cause I'm always looking for what's wrong. God, I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got yard. Yes, I will survive. Thank God I can breathe, I can be what they can buy. Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright. Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive. 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 Thank God du rappeur français Riles. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, un casque de chantier sur la tête et un marteau-piqueur à la main. Nouvelle série consacrée à l'économie de la construction. Lundi, on parlera de la menace d'une pénurie mondiale de sable. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. Nobody
ones. But if it ain't us, you don't trust in us now. Nah. Yeah, I know, I know, I know. Rose got thorns and I got a long way to.